Alors ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous demander la signification réelle de la fête de Pâques. Qu'est-ce que la fête de Pâques, à votre avis? Ça nous dit quoi, la Pâque? Pardon? Ah, il y a peut-être un affront alors. C'est quoi la fête de Pâques? C'est là. Alors il y a la sortie du pays d'Égypte, oui. Il y a la sortie des Israélites, parce que la Pâque c'est pas une fête pour nous chrétiens seulement, c'est une fête juive. C'est même la deuxième fête du calendrier juif. Hein. Vous savez que le peuple d'Israël avait un certain nombre de fêtes que Dieu avait instaurées. Il y avait 6 fêtes au total. La première c'est le sabbat. Ensuite il y a la Pâque. Ensuite il y a la Pentecôte. Ensuite, il y a la fête des trompettes, ensuite la fête du grand pardon, Yom Kippour, et ensuite la fête des tabernacles, fête des cabanes. Il y a 6 fêtes juives dans le calendrier lévitique. Fêtes juives qui ont eu partiellement encore aujourd'hui un accomplissement prophétique. C'est-à-dire que la Pâque juive, le sabbat, a un accomplissement prophétique par rapport à nous. Le sabbat, ça annonce le repos de Dieu. Comme il est dit dans le livre des Hébreux, à un moment donné, rentrer dans le repos de Dieu, c'est se reposer en Jésus-Christ. La Pâque, il y a eu un accomplissement prophétique. La Pentecôte, il y a eu un accomplissement prophétique. Et probablement, on pourrait dire que la fête des trompettes, Rosh Hashanah, pour ceux qui sont juifs, la fête des trompettes, il y a eu peut-être un accomplissement prophétique en 1948, lorsque l'État d'Israël a été créé. Voilà, donc il y a les fêtes juives, la Pâque est une fête juive. Et donc pour les chrétiens, la Pâque c'est la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. Pourtant, vous savez qu'il y a un sondage qui a été effectué il y a quelques années à cette période, qui montre que 43% des personnes interrogées qui se disaient catholiques ignoraient totalement la signification réelle de cette fête. Pourtant, si on leur avait demandé « mais on achète quoi à Pâques ?», 98% auraient répondu « des œufs, des lapins ». Je me suis amusé hier, j'ai tapé sur Google Images, j'ai tapé Pâques sur Google Images, je m'attendais à voir une croix, un tombeau, rien du tout, que des œufs, des lapins, promotion, joyeuse fête, etc. Voilà. Pas un seul tombeau vide. Donc Pâques, c'est effectivement pour les Juifs, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte. C'est une nouveauté, c'est un recommencement. Ils étaient pendant 430 ans en esclavage, et soudain là, c'est la liberté. C'est la libération. Pâques, c'est un nouveau commencement. Et pour nous, chrétiens, Pâques, c'est un nouveau commencement. À un moment donné, il n'y a plus d'espoir, le péché est sur le monde entier, on est séparé totalement de Dieu. Et soudain, Jésus meurt sur la croix, il ressuscite, et il y a un nouveau commencement. Que l'on célèbre chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus. On a eu des baptisés il y a quelques semaines, on en aura de nouveau, on se réjouit. Eh bien, c'est un nouveau commencement, c'est une résurrection. Et c'est pas anodin que ça se passe au mois d'avril. C'était le mois de Nisan. Pour les Hébreux, pour le peuple d'Israël, le mois de Nisan, Nisan ça veut dire commencement. Donc c'est pas un hasard que ça se passe au printemps, parce que c'est un renouveau. C'est pas les marronniers comme disait Guy, mais au printemps il y a quoi? Il y a des bourgeons, il y a des fleurs. La nature était morte en hiver et c'est un nouveau commencement. Donc c'est ça, Pâques. Alors Pâques dans l'ancien, dans le calendrier, c'était quoi? C'était l'ange exterminateur en Égypte, qui devait tuer tous les premiers-nés et qui a épargné les foyers des Hébreux. Les Hébreux qui, ce soir-là, devaient immoler un agneau sans défaut. Et cet agneau sans défaut, on prenait de son sang avec une branche d'hysope et ils en passaient sur les linteaux. Quand ils étaient en Égypte, ils en passaient sur les linteaux de leurs portes. Et quand l'ange exterminateur est venu, eh bien, chaque fois qu'il voyait du sang sur un linteau, il évitait la maison, il ne tuait pas le premier-né. Et cet ange exterminateur, cette nuit-là de la sortie d'Égypte, cet ange exterminateur a tué tous les premiers-nés d'Égypte, sauf ceux qui avaient du sang sur le linteau. Quel magnifique symbole pour nous, chrétiens, de savoir que le sang de Jésus, sur notre linteau de porte, quelque part, eh bien, il nous évite le jugement de Dieu, la punition de Dieu, et nous amène cette réconciliation. Donc la résurrection de Jésus permet un nouveau commencement, comme pour les Juifs, à un moment donné, ont eu un nouveau commencement. Alors, attendez, je vais essayer de... projeter quelques diapos. Voilà, j'ai intitulé ce message « Le début d'une nouvelle ère ». Et on va lire donc dans l'évangile de Matthieu quelques versets bien connus au chapitre 27, versets 45 à 51. On lira même jusqu'à 55. Je vais lire dans la version de la Colombe. « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient « Il appelle Eli. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent « Laisse, voyons si Eli viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri, une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Voilà. Le voile du temple se déchira en deux. Vous me direz, c'est un bout de tissu, hein, ce bout de tissu qui a été fait selon les recommandations de Dieu. Il était en fil de laine, violet, pourpre, cramoisi. C'était une pièce très solide, c'était un très grand voile. Pourtant, il s'est déchiré de haut en bas. Est-ce que vous savez quelle était la hauteur du lieu saint, du lieu très saint, dans le temple? C'était un cube, 5 mètres. 10 coudées, 5 mètres. Donc on peut se dire 5 mètres, aucun homme aurait pu le déchirer. Il s'est déchiré de haut en bas. À l'époque, on ne pouvait pas aller chez Castor pour prendre un escabeau, acheter un cutter, monter et déchirer le voile. Donc là, il y a un geste surnaturel qui nous montre qu'il y a vraiment une intervention divine. Ce voile qui séparait dans le temple, on y viendra tout à l'heure, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, ce voile était un symbole de la séparation entre l'homme et Dieu. Depuis l'origine, depuis la Genèse, depuis que l'homme a péché, qu'il a été chassé du jardin d'Éden, l'homme est séparé de Dieu parce que Dieu est saint, et même trois fois saint, et l'homme est pécheur. Et ce voile symbolisait cette séparation. On ne pouvait pas franchir ce voile pour entrer dans le lieu très saint. Il y a une seule personne qui pouvait le faire une fois par an. C'était le souverain sacrificateur, le jour du grand pardon, le Yom Kippour. Il pouvait rentrer, d'accord, avec du sang, dans le lieu très saint, il passait au-delà du voile. Et là, Pâques, le voile a été déchiré d'une manière surnaturelle, de haut en bas. Alors on s'est beaucoup polarisé sur des morceaux de tissu, vous savez, la tunique de Jésus, qui a été faite d'une seule pièce, et puis il y a le linge aussi, le fameux linceul de Turin. Et puis la couronne d'épines, là on a encore parlé cette semaine avec la catastrophe de la Notre-Dame de Paris. Voilà. Mais on passe sous silence ce rideau, ce fameux voile du temple que personne ne revendique de nos jours, qui est passé aux oubliettes parce que peut-être que personne ou peu de gens avaient vraiment compris la signification de cet acte. Et dans le texte de Matthieu, on lit que c'est le premier événement qui se produit lorsque Jésus rend l'esprit. Imaginez ce temps, ce moment qu'on a lu. À cet instant, tout le péché de l'humanité repose sur les épaules de Jésus. Tout le péché de tous les hommes de tous les temps. Alors, il y avait eu Gethsémané avant, il y avait eu les angoisses de Jésus, il y avait eu sa solitude, la lourde croix, les souffrances physiques. Mais là, Jésus est sur la croix et le Père détourne le regard vraiment de son Fils. Et il y a ce cri qui reprend le texte du psaume 22 de David, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'Éternel fait retomber sur les épaules de Jésus le péché de nous tous, ton péché, mon péché. À ce moment-là, l'Éternel fait retomber sur lui le péché de nous tous. C'est Ésaïe 53 qui nous le dit, on l'a étudié il y a un mois. Donc Jésus pousse un grand cri et il rend l'esprit. Imaginez ce qui se passe à ce moment-là, c'est juste inimaginable. Mais imaginez lorsqu'on vous amène un sac très lourd pour vous le charger sur le dos. Vous le voyez de loin. Vous le voyez de loin et puis soudain il s'approche et on vous le met sur le dos. Et c'est seulement au moment du transfert que vous sentez le poids du sac. C'est pas lorsque vous le voyez s'approcher. Tout le péché de l'humanité, mon péché, ton péché, repose sur les épaules de Jésus. Les plus grands criminels de tous les temps, les violeurs d'enfants, les pédophiles, tout ce que vous voulez, tout ça, ça repose sur les épaules de Jésus. Et Jésus rend l'esprit. Et là, la faute est expiée. La faute de l'humanité est expiée. Et le voile du temple se déchire en deux par le milieu du haut en bas. Vous voyez, ce voile dans le lieu très saint, il ressemblait à ça. 5 mètres de haut. Là, on est dans le lieu, on a une vue ici du lieu saint, et le lieu très saint est au-delà du voile. Dans le temple d'Hérode, à l'origine, il y avait des séparations. Hein. Je vous ai parlé de séparations tout à l'heure. Il y avait plein de séparations, il y avait des séparations entre les non-juifs et les juifs, il y avait des séparations pour les femmes et les hommes, il y avait le parvis des femmes, le parvis des hommes, il y avait le parvis des sacrificateurs, et puis il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Donc la vie de l'humanité est une succession de séparations. Et Pâques, c'est vraiment cette réconciliation. Hein. La séparation entre Dieu et les hommes est terminée. Il y a une espérance, il y a un espoir de se rapprocher à nouveau de Dieu. Et le voile déchiré, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a un libre accès auprès de Dieu, un libre accès auprès du Père. Et vous voyez, ce passage de l'Épître aux Hébreux nous le dit bien. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Le sanctuaire, c'est là où est Dieu. Donc nous avons un libre accès à Dieu par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau. C'est un nouveau chemin. Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, Dieu a dit « Vous allez prendre un chemin nouveau que vous n'avez jamais parcouru. » C'est un chemin nouveau et vivant au-delà, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et en Éphésiens, chapitre 2, Paul nous dit que c'est par lui que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc le chemin est ouvert et pour ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus, pour ceux qui acceptent que ce fardeau qui est sur leurs épaules, ce fardeau du péché en Jésus, ce fardeau puisse être pris par Jésus à la croix, eh bien se produit alors ce miracle où le fardeau est enlevé, la faute est expiée. Hein, je reprends ces termes de Ésaïe chapitre 6, lorsqu'Ésaïe se sent pécheur, et il y a l'ange qui vient prendre une braise qui vient lui toucher les lèvres et qui dit « ta faute est expiée ». Ben, c'est exactement la même symbolique. la faute est expiée. Et le grand message de Pâques, c'est ça. C'est que le rideau est déchiré, que tous les hommes qui veulent se placer au bénéfice du sacrifice de Jésus pour leur vie ont un libre accès auprès du Père. Et c'est pour ça que nous nous réunissons ce dimanche matin, chaque dimanche, pour nous approcher librement de Dieu. Nous approchons de cette table, nous commémorons le sacrifice de Jésus, nous commémorons sa résurrection, et nous pouvons nous approcher librement de Dieu. Parce que Paul nous dit en Éphésiens chapitre 3 que nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est formidable. On peut s'approcher de Dieu, Dieu est proche. Dieu est notre Père. Mais encore faut-il savoir qui est ce Père. C'est qui ce Dieu, ce Père dont nous parle l'Écriture. Et ce Père est souvent mal connu pour nous chrétiens. On est un petit peu comme l'apôtre Philippe qui disait à Jésus dans l'évangile de Jean, il lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et parole étonnante de la part de Philippe, pour quelqu'un qui a marché 3 ans avec Jésus et à qui Jésus venait de dire « Si vous me connaissiez, vous me connaîtriez aussi mon Père ». Donc, nous sommes nous aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que ce fameux Père, on a du mal à le voir tel qu'il est. Il est un peu flou. Parce que souvent, on a une image distordue. On a une image distordue de Dieu parce qu'on a chacun des filtres. On a des filtres qu'on a acquis au cours de notre histoire. Et très souvent, l'image qu'on se fait de Dieu, du Père, tel que Jésus l'a annoncé, eh bien, cette image dépend souvent de la vision de notre propre Père terrestre. Par exemple, si on avait un Père qui était sévère, eh bien, on aura tendance à voir Dieu comme quelqu'un de sévère, comme un Père fouettard. Si on a eu un Père absent, on aura du mal à considérer que Dieu est un secours et un appui qui se trouve toujours dans la détresse. Je cite le psaume 46, etc. Donc, en fonction du Père qu'on a eu, inconsciemment, on va projeter l'image de notre propre Père sur Dieu. Et si on ne change pas notre façon de voir, le mindset, comme disent les anglo-saxons, eh bien, on va avoir du mal, on va lutter un petit peu avec cette image de Dieu. Oui, je comprends intellectuellement que le voile est déchiré, que j'ai un libre accès auprès du... Oui, mais bon, un libre accès auprès du Père, si mon Père me battait injustement, si j'ai eu un Père violeur, etc., ça m'intéresse pas trop d'avoir un libre accès auprès d'un Père comme ça. Et c'est pourquoi l'image qu'on a de Dieu notre Père doit être une image d'un Dieu qui est Dieu de toute éternité. Et qui est une image qui ne doit pas dépendre de notre propre expérience, mais au contraire, dépendre de la manière dont il est décrit dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu avait donné, je crois, ce commandement, hein, dans les premiers commandements qu'il a donné au peuple, il avait dit de ne pas se faire des représentations des choses d'en haut. Parce que si on fait une représentation physique, on va forcément, comme on est très marqué par les images, on va forcément avoir une vision physique. Par exemple, quand on représente, Michel-Ange représente Dieu comme un vieillard aux cheveux blancs sur le plafond de la chapelle Sixtine, ben, il va le représenter comme un vieillard. Donc si on a l'image d'un Dieu vieillard, on va se dire, voilà, le vieillard, il est faible, donc si j'ai des pépins, il va pas pouvoir m'aider, il est trop faible. Vous voyez ce qui se passe. Mais l'objectif pour nous, qui avons compris qu'on a un libre accès auprès du Père, c'est de découvrir le caractère de ce Père au travers de la parole de Dieu. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse passer un petit moment pour voir comment nous pouvons mieux connaître ce Père et mieux entrer dans l'intimité du Père maintenant que nous avons ce libre accès. Parce que Jésus nous a promis que s'il nous a parlé en parabole, s'il a parlé ses disciples en parabole, l'heure vient où il vous annoncera ouvertement le Père. Et je crois que Pâques, c'est le début d'une nouvelle ère où on peut avoir un accès à ce Père et voir ce Père réellement tel qu'il est. Alors entre Pâques et la Pentecôte, hein, il y a un temps qui se passe encore. La Pentecôte, on aura l'effusion du Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses, etc. Mais Pâques est déjà un premier commencement. Donc ce que je vous propose rapidement, c'est de voir qui est ce Père dont nous parle la Bible Et puis, on va voir comment il est dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et puis, on se posera la question, est-ce que Dieu est notre Père ? Parce que ce n'est pas toujours évident. Et puis, on va voir ce qu'on peut en faire de tout ça. Alors, quelle est l'image de Dieu dans l'Ancien Testament ? Ben, l'image de Dieu dans l'Ancien Testament, en hébreu, le mot « Père », c'est la racine « Abbé ». Abbé qu'on retrouve dans « Abba ». Quand Paul dit nous prions Abba Père, eh bien c'est cette racine hébreu qui désigne littéralement une relation familiale d'autorité, qui pourrait aussi signifier ancêtre, grand-père. Et on retrouve cette notion la première fois, ce mot on le retrouve dans la Genèse, quand Dieu dit au sujet du mariage, l'homme quittera son père et sa mère. Voilà. Donc ça c'est la première notion dans l'Ancien Testament. Et qui a donné ce fameux Abba. Abba qui est un terme araméen qui a évolué au cours du temps, qui a été utilisé aussi par les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, pour quelque chose de l'ordre de la prière. Et c'est devenu progressivement un terme sacré. C'est pourquoi Jésus et Paul reprennent ces mots Abba Père dans le cadre de la prière. Donc, pour les Juifs dans l'Ancien Testament, s'adresser à Dieu comme à un père, c'était trop familier. Dieu était vu comme quelqu'un de terrible. Souvenez-vous, sur la montagne du Sinaï, dans Exode chapitre 19, on n'a pas le temps de le lire, mais pour ceux qui prennent des notes, en Exode 19, 16, vous avez Dieu qui apparaît terrible et majestueux, la montagne est tremblante, il y a des éclairs, des coups de tonnerre, un tremblement de terre. Donc, cette proximité n'existait pas chez les Juifs. On voyait Dieu comme quelqu'un de terrible, on voyait Dieu comme quelqu'un de vengeur. La tradition orale, quand on lit un peu les histoires de la mythologie, la tradition orale retient Dieu comme un punisseur. C'est-à-dire qu'on a vu les premiers hommes, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, ont transmis oralement, je pense, c'est mon avis, ils ont transmis oralement cette notion de Dieu punisseur et Dieu vengeur. C'est pour ça que dans la mythologie grecque, par exemple, vous avez sans arrêt des luttes entre les dieux, avec des vengeances, etc. Parce qu'il y a cette notion qui n'a pas été comprise. Si l'homme a été chassé du jardin d'Éden, ce n'est pas Dieu qui s'est défoulé sur l'homme, c'est simplement une question de sainteté et de séparation. On en a parlé au début, la réconciliation avec la mort de Jésus. D'accord ? Donc Dieu était vu comme quelqu'un de terrible. Et puis on ne pouvait pas voir Dieu et vivre aussi. Dieu était saint. On ne pouvait pas voir Dieu face à face. C'est pour ça que lorsque, dans l'Ancien Testament, Moïse, à un moment donné, il veut voir Dieu, et Dieu lui dit, non, mais tu ne peux pas me voir face à face. Je te mets dans le rocher, je vais passer, tu vas me voir par derrière. On ne pouvait pas le voir face à face. Et puis, il y avait des représentations de Dieu. En Exode 24, par exemple, lorsque Moïse, Aaron, Nadab et Abihu montent sur la montagne, il est dit, ils virent le Dieu d'Israël, c'était comme une mer, comme une pureté. Donc il y avait des représentations de Dieu. Il y avait des représentations de Dieu aussi sous la forme de l'ange de l'Éternel qui apparaissait ponctuellement à certaines personnes. Mais c'était des représentations de Dieu. Dieu était trop saint, on pouvait pas le voir face à face. Pourtant, il y avait quand même quelques allusions à des proximités de Dieu. Par exemple, lorsque Dieu parle de Salomon à David, il lui dit en 1 Chronique 17, moi-même je serai pour lui un père. Donc on utilise déjà ces termes. Et puis il y a ce magnifique passage du livre d'Ésaïe qui nous dit que Ésaïe qui nous dit cependant, c'est toi qui es notre père, ce n'est pas Abraham qui nous a connus. Ce n'est pas Israël qui nous a distingués, c'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité s'appelle notre Rédempteur. Donc, bien que l'image de Dieu dans l'Ancien Testament soit une image sévère, une image distante, il y avait quand même ça et là, dans le livre de Malachie aussi, où il est dit « N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?» Donc, il y avait cette notion de proximité qui apparaissait dans l'Ancien Testament. Mais il faut attendre le Nouveau Testament pour voir cette véritable proximité, ce que j'appelle le cœur d'amour du Père dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire le cœur d'amour pour les perdus, le cœur d'amour pour les enfants qui s'éloigne de lui. Et cette intimité qui est gagnée dans le Nouveau Testament par l'intermédiaire de Jésus, eh bien, nous fait vraiment découvrir qui est le Père au travers de Jésus. Dans cette notion si mystérieuse qu'on appelle la Trinité, qui n'est pas un terme biblique, mais Père, Fils et Saint-Esprit. Hein, le Dieu à la fois unique et Dieu pluriel. Et c'est Jésus qui va bousculer un petit peu tout ça dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il commence à enseigner à ses disciples comment prier, il commence sa prière par « Notre Père ». Notre Père. C'était révolutionnaire. Imaginez les Juifs pétris d'années et d'années de tradition, de Dieu terrible, de Dieu vengeur. Eh bien, Jésus bouscule tout ça et il commence sa prière par le Notre Père. Et plus tard, l'apôtre Paul, dans ses textes qui sont connus, hein, Romains 8, 15, je vous lis, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves pour vous amener à la crainte, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et en Galates 4, 6, il va répéter également cette notion « par le Saint-Esprit ». Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui nous permet d'appeler Dieu notre Père. C'est pour ça que Jésus a dit aussi « n'appelez sur terre personne Père ». C'est que les catholiques, par exemple, s'appellent, enfin, on appelle le prêtre, on l'appelle père. Mais le mot père dans la Bible a toute une signification qui est beaucoup plus profonde. Par l'Esprit de Dieu, nous pouvons dire Abba, Père. Et Paul dira aux Éphésiens en introduction, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce mot père est vraiment quelque chose de fort, hein, c'est quelque chose d'important qui nous fait rentrer réellement dans une proximité avec Dieu. Et lorsque Paul, justement, écrit dans cette fameuse lettre aux Éphésiens, lorsqu'il va prier pour les Éphésiens, il va demander que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez et qu'il illumine ainsi votre intelligence. Et cette prière, c'est aussi ma prière pour vous ce matin. C'est la prière que je me fais pour moi aussi. Que Dieu m'aide à le connaître vraiment dans l'intimité, de savoir qui il est. Ce mot « connaître » ici en grec, c'est vraiment un mot qui signifie littéralement « surconnaître ». C'est surconnaître, c'est pas juste une connaissance, je connais à peu près le chemin pour aller à tel endroit. C'est vraiment une connaissance profonde, une connaissance qui est débarrassée de tout préjugé. Parce que nous avons tous inconsciemment des préjugés, on l'a vu tout à l'heure, sur l'image de Dieu le Père. Et l'une des caractéristiques du Nouveau Testament, c'est bien sûr de présenter Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu nous parler du Père. Il est venu nous présenter une autre image de Dieu en tant que Père. Et ça nous permet vraiment de rentrer dans son intimité. Et c'est ça que le Père recherche. C'est ça que Dieu recherche. C'est d'avoir des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, qui le connaissent dans l'intimité. Et là, il n'y a pas 36 façons de le connaître, c'est dans la lecture de la parole. C'est en lisant la parole, c'est en lisant les actes puissants de Dieu qu'il a fait depuis l'origine, qu'il a fait pour le peuple juif, qu'il a fait pour les prophètes, tout au cours de l'histoire d'Israël, ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, ce qu'il a fait dans le livre des actes. Quand on voit Dieu agir, on comprend un peu mieux le cœur du Père. Ça saute pas aux yeux comme ça. Mais progressivement, plus on le lit, et plus on s'imprègne, et plus cette image distordue qu'on a de Dieu va s'affiner, plus l'image de notre Père terrestre, qui parfois nous colle à la peau, parce qu'on peut avoir des images heureuses de Père, mais on peut avoir des Pères qui marquent des souvenirs très, très difficiles. Donc pour extirper tout ça et remplacer cette image qu'on a par la véritable image de Dieu, c'est la lecture de la parole. Et là, il y a deux passages vraiment qui sont fondamentaux. C'est tout d'abord l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, 98 fois, il est question de Père appliqué à Dieu. Et je vous encourage à parcourir cet évangile de Jean. On l'a étudié il y a 2 ans maintenant, en détail. Je vous encourage à le relire sous l'optique de l'image du Père. Qu'est-ce que j'apprends de l'image du Père dans l'évangile de Jean, en sachant que dans le prologue de Jean, il nous est dit, hein, au chapitre 1er, personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Donc si vous voulez connaître le Père, lisez l'évangile de Jean. Et puis il y a un autre passage. Je ne sais pas si j'ose là maintenant, je suis un petit peu en retard. Guy, j'ai encore 10 minutes, un quart d'heure. Ça va? Vous n'êtes pas trop endormi? Il y a un autre passage pour moi qui montre l'amour du Père, ce sont les paraboles de Luc 15. Et on va quand même lire cette parabole de Luc 15 que vous connaissez tous très bien. On ne va pas la lire sous l'aspect de son titre, que son titre est faux, mais on va le lire sous l'aspect de l'amour du Père. Donc Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Il est perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Voilà, on va arrêter là parce que je tronque volontairement cette parabole pour ne parler que de l'aspect du Père. Alors vous voyez, dans ce chapitre 15 de Luc, on a une opposition entre Jésus qui veut donner une image du Père et les pharisiens qui s'opposent constamment à lui. Il lui reproche de s'attabler avec les pécheurs. Et on trouve donc dans ce groupe de paraboles, hein, avant on n'a pas lu, mais il y avait la parabole de la brebis perdue, la parabole de la femme qui perd sa pièce, et puis la parabole de ce père de famille. Donc dans toutes ces paraboles, il y a ce souci de la perte et cette joie d'avoir retrouvé ce qui était perdu ensuite. Et c'est dans cette parabole, je pense, que transparaît le mieux cette image de père telle que Jésus veut nous la donner. Alors la parabole commence par un fils ingrat. Donne-moi la part de bien qui me revient. Il faut comprendre que dans la culture de l'époque, ça ne se faisait pas. Ça revenait à dire, en gros, c'est « je veux que tu sois mort ». Ce que le fils là dit au père, c'est « je veux que tu sois mort et je veux toucher ton héritage ». Et donc là, on a un père qui ne dit rien. Il pourrait l'envoyer promener, il pourrait protester, mais il ne dit rien. Et pourtant, je pense que cette demande a dû lui briser le cœur. Combien de fois, si je me mets à la place de ce fils, combien de fois j'ai dû briser le cœur de Dieu par des actions mauvaises, ou bien pendant les 26 ans où j'ai marché sans le connaître. Mais Dieu nous laisse autonomes et décisionnaires. Il ne nous force jamais, même si certaines de nos attitudes et de nos comportements lui brise le cœur. Et est-ce qu'on y pense à ça? Alors remarquez le silence de ce père. Il devait souffrir en silence de voir son fils mener débauche. En tant que riche propriétaire, on peut supposer qu'il devait être informé de ce que faisait son fils. Alors il pouvait intervenir, il aurait pu envoyer une brigade, il aurait pu le délivrer, le sauver, mais il ne fait rien de tout ça. Malgré tout ce qui lui brise le cœur, il attend. Il veille avec assiduité. Comment on sait qu'il veille avec assiduité? Tout simplement parce que le texte nous dit qu'il le voit de loin. Ça veut dire qu'il le guette. Combien de nous pouvons témoigner ici que lorsque nous nous sommes tournés vers Dieu dans la repentance et l'humiliation, Dieu nous cherchait déjà. Il nous guettait de loin. Il était prêt à nous accueillir. Il était prêt à nous donner sa paix. Pour ma part, comme je vous ai dit, Dieu a attendu 26 ans de patience pour me cueillir, pour se révéler réellement. Il n'a pas forcé la main, il a attendu le moment favorable. Et nous avons un Dieu qui est vraiment extraordinaire. Un Dieu dont le cœur de père pleure pour les pécheurs. Ces pécheurs qui se perdent pour l'éternité. Alors j'espère qu'ici dans cette salle ce matin, il n'y a personne qui se perd pour l'éternité. Personne d'entre nous qui n'ait accepté encore Jésus dans son cœur. Sinon, ben, c'est pas trop tard, vous pouvez le faire ce matin. Quel contraste avec les pharisiens de la parabole, ces soi-disant bergers du peuple qui passaient leur temps polarisés sur la loi, sur l'application de la loi stricte, qui n'avaient rien de mieux à faire que de chercher à surprendre quelqu'un en faute pour pouvoir mieux l'accabler. Alors le Père ici, c'est lui qui fait le premier pas. Il est pris de pitié. Il va courir sur le chemin à la rencontre de son fils. Vous vous rendez compte? Un père, ça se faisait pas. Un père ne courait pas comme ça. C'était la honte. Les gens qui le voyaient, c'était la honte. Ce père, mais c'est la honte aux yeux du monde. Premièrement, il donne la fortune à son fils. Et deuxièmement, il court. Ça se faisait pas quand on était un notable de courir à la rencontre de son fils. Et puis ensuite, il se jette au cou de son fils. Il l'embrasse. C'est un jeune homme sale. Il est malodorant. Il a gardé les porcs pendant des mois et des mois, mais il s'en fiche, le père. Il l'embrasse, il lui court après et il se jette à son cou. Est-ce que vous avez noté, là? Il n'y a aucun reproche. Il ne lui reproche rien. Il aurait pu lui dire, ouais, mais je t'avais bien dit, t'as bien vu, hein, je t'ai donné mon héritage, regarde ce que t'en as fait. Moi, j'aurais fait comme ça. Et là, il ne lui reproche rien. Il a déjà oublié ses actions passées parce qu'il sait que son fils a déjà eu cette démarche intérieure de repentance. La Bible nous dit, je sais ce que je ferai, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, père, j'ai péché contre toi. Il le savait ça. Jésus sait à un moment donné, quand vous avez dans votre cœur une démarche de repentance. Et puis, lorsque son fils lui parle, pour lui dire, père, j'ai péché contre toi, Il le coupe dans sa repentance, il ne le laisse pas s'exprimer pour lui éviter trop d'humiliation. Vous savez, de temps en temps, on attend que quelqu'un se repente et puis vraiment qu'il en mette une couche, hein, et qu'il aille au fond et tout, humilie-toi bien pour bien que tu comprennes tout le mal que tu m'as fait. Eh bien, le Père, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme moi. Peu importe le passé, ce qui compte pour ce Père, c'est qu'à un moment donné, un fils était perdu et qu'aujourd'hui, il est retrouvé. Et il est retrouvé, il est réconcilié. Le voile a été déchiré. Il lui donne ce qu'il y a de meilleur, l'anneau au doigt. Il le traite comme un roi, il organise un repas. Alors que l'autre, il se serait juste contenté d'être un serviteur. Il était prêt à redevenir un serviteur. Il était prêt à expier, il était prêt à faire un chemin de croix, à se faire saigner les genoux, etc., à faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il était prêt à faire des choses par son propre effort. Et le Père le traite comme un roi en lui disant « Non, tu n'as rien besoin de tout ça. Pourquoi » Pourquoi? Parce que Jésus, mon Fils, a payé pour toi. Et il se réjouit par un festin magnifique pour célébrer ce qui était perdu. Le peintre hollandais Rembrandt avait, semble-t-il, compris quelque chose de cette intimité avec le Père. On voit ici ce tableau qui s'appelle « Le retour du fils prodigue », qui est un tableau magnifique qui a été peint au XVIIe siècle. Et dans ce tableau, il y a quelque chose d'extraordinaire, ça me touche beaucoup, c'est les mains que Rembrandt a peintes sur ce tableau. Vous voyez, les mains ne sont pas pareilles, vous avez une main de père et une main de mère, et qui nous donne réellement le cœur de qui est Dieu notre Père. Dieu notre Père, c'est à la fois un Père et une Mère. Il y a des gens qui ont dit, oui, mais Dieu c'est masculin, donc avec les mouvements féministes, ça peut pas marcher, etc. Et je crois que Dieu peut remplacer à la fois un Père et une Mère. Et beaucoup de chrétiens qui sont orphelins de mère peuvent dire qu'ils ont trouvé en Dieu à la fois ce réconfort paternel et maternel. Et on trouve en Jésus ce caractère à la fois paternel, c'est-à-dire parfois un peu rude, parfois violent, comme lorsqu'il chasse les marchands du temple, mais on trouve ce caractère maternel de Dieu, où il est très proche des gens qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin d'être restaurés, et qui ont besoin d'être réhabilités. Et c'est ça, semble-t-il, dans cette parabole, que l'auteur de l'évangile, Luc, veut rapporter dans cette parabole du fils prodigue, ce père qui est si proche de son fils, quelles que soient les difficultés. Et aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous sont comme ce fils prodigue, et ils ont peur d'un père, parce qu'ils ont une image du père qui est, voilà, peut-être mon père, il est tellement rude, il a toujours été rude avec moi, il m'a battu, et Dieu ne va jamais accepter mon péché, il ne va jamais accepter mes écarts, mes fautes, mes errements. Peut-être tu t'es éloigné de Dieu ce matin, pendant un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans. Eh bien, c'est le Père qui a déchiré le voile du haut en bas. C'est ce Père-là qui, aujourd'hui, t'accueille et aujourd'hui nous accueille. Et c'est ça, je crois, la véritable symbolique de la Pâque. C'est que le voile a été déchiré, qu'il y a un libre accès auprès du Père et que nous pouvons pleinement entrer dans sa grâce aujourd'hui. Donc Pâques est vraiment une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Il a payé pour nous. Nous sommes libres et nous sommes en lui. Amen. Amen.